Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Alors aujourd'hui, nouvelle promenade auriculaire à travers les siècles et au gré de l'actualité discographique. Et je vous emmène tout de suite en Espagne pour l'un des joyaux du piano espagnol, un fandango de Granados, nerveux, racé et frémissant, extrait de ses célèbres Goyescas de 1911. Nous écoutons donc sans plus tarder El Fandango de Candil, en français le fandango à la chandelle, sous les doigts du jeune pianiste français d'origine serbe, Jenisej Ramić.
Thank you.
Le panache, la virtuosité, le lyrisme du fandango des Candiles de Granados, troisième des six Goyescas pour piano, l'un des plus beaux cycles pianistiques de toute la musique espagnole, enregistré par Yenisei Ramić dans son récent album Sérénade. Alors l'Espagne était donc le point de départ de notre promenade auriculaire de la semaine, et je ne parle bien sûr pas d'une promenade sur le cinquième doigt, mais bien plutôt d'une promenade avec les oreilles, puisque j'ai sélectionné pour vous un florilège d'œuvres paru récemment au disque et que je vous propose de partager aujourd'hui. De l'Espagne, nous passons maintenant en Allemagne avec un extrait de « Seul Dieu doit posséder mon cœur ». Une cantate composée par Bach en 1726 pour le 18e dimanche après la Trinité, soit très exactement le 20 octobre. On est presque raccord. Alors c'est peu dire que Bach était un chrétien luthérien convaincu, tant son œuvre tout entier, même profane, semble habitée par sa relation au divin, par sa volonté de servir Dieu et son prochain de toutes les forces de son âme et de son corps. Chaque cantate de Bach entre ainsi en relation avec les lectures du jour de l'année liturgique. Une cantate ne pouvait en conséquence être jouée qu'une seule fois par an. Donc imaginez-vous trois siècles plus tôt à Leipzig, écoutant avec émerveillement lors du service dominical la cantate fraîchement composée par Jean-Sébastien.
Steh,
Mourez en moi, arrogance, richesse, cupidité, vous instinct dépravé de la chair. Que mon cœur sur cette terre pratique à jamais l'amour de Dieu. Accompagné des musiciens du banquet céleste, nous écoutions l'émouvant contre-ténor Damien Guillon nous chanter Stirb in mir Welt, cantate BWV 169 de Jean-Sébastien Bach. Nous étions donc à Leipzig en 1726, et je vous propose maintenant de sauter un bon siècle et une centaine de kilomètres vers l'est pour retrouver Schumann à Dresde, où celui-ci compose ses 5 pièces dans le style populaire pour violoncelle et piano. Schumann était pianiste, mais savez-vous qu'il avait également pratiqué dans sa jeunesse le violoncelle? Alors on pourrait presque imaginer qu'aujourd'hui, il enregistrerait ses 2 pièces en re-recording, jouant successivement les 2 instruments. Mais c'est maintenant par Cyrielle Golin au violoncelle et Antoine Mourlas au piano que nous allons écouter la première de ces 5 pièces dans le style populaire. J'ai souvent eu l'occasion comme pianiste de les accompagner, et je dois dire qu'à chaque fois, au moment de commencer à les jouer, je me sentais bien. Heureux de traverser ces pages de musique simple et naturelle, ou bien sûr pas le Schumann le plus raffiné ni le plus visionnaire, mais tout de même un ton, un caractère, comme dans cette première pièce à l'allure rustique, bonhomme, presque goguenarde. Nous écoutions la première des 5 pièces dans le style populaire de Robert Schumann, interprétée par la violoncelliste Cyrielle Golin et le pianiste Antoine Mourlas, un duo qui a eu l'idée assez originale de réunir 3 compositeurs homonymes, Robert Schumann, Georg Schumann et Camillo Schumann, sur le même album. La pièce suivante tient autant de l'Estonie que de l'Espagne. Elle est signée Arvo Pärt et, comme souvent chez le grand compositeur estonien, elle repose sur un étonnant mystère. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je dois dire qu'à chaque fois que j'écoute du Arvo Pärt, j'ai le même sentiment. C'est beau, cela me saisit, mais je suis incapable d'en dire quoi que ce soit. Écoutant la pièce vocale d'Apachem Dominé, j'ai retrouvé ce même sentiment de beauté inexplicable. L'œuvre a été commandée par le célèbre chef et gambiste Jordi Savall sous le coup de l'émotion provoquée par les attentats qui ont frappé Madrid en 2004. Mais Arvo Pärt fonde sa pièce sur une ligne d'alto utilisant un refrain liturgique grégorien du IXe siècle. Le compositeur en a établi de nombreuses versions, instrumentales ou vocales, mais c'est la version originale pour chœur a cappella que nous écoutons maintenant. L'émotion du Dapachem dominé d'Arvo Pärt, une pièce commandée au compositeur estonien par Jordi Savall à la suite des attentats de Madrid de 2004 et qui est depuis donnée chaque année en Espagne à la date anniversaire de ce tragique événement. Cette prière pour la paix était chantée par les voix pures et aériennes du chœur du Clare College de Cambridge sous la direction de Graham Ross. Un très beau disque intitulé Stabat, essentiellement consacré aux œuvres vocales du compositeur estonien. J'ai maintenant le plaisir, l'honneur, le privilège de vous présenter l'un des plus grands compositeurs portugais, j'ai nommé Joly Braga Santos. Né à Lisbonne en 1924, il y meurt en 1988, après avoir écrit quelques 3 opéras, 6 symphonies, des musiques de films, un concerto pour piano et un autre pour alto, ainsi qu'un nombre non négligeable d'œuvres de musique de chambre. Chef d'orchestre, critique, musicologue, figure éminente de la vie musicale portugaise, il dirige dans le monde entier. Le temps dévolu à notre preuve par Z ne nous permettant malheureusement pas d'entendre l'une de ses magnifiques symphonies, je vous propose de faire sa connaissance grâce à l'une de ses miniatures pour orchestre, une musique essentiellement mélodique qui fait la part belle aux solos de vent et aux envolées de cordes. Nous écoutions l'intermezzo pour orchestre du grand symphoniste portugais Braga Santos, une pièce écrite en 1956 et enregistrée pour la première fois au disque par Álvaro Kossuth à la tête de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liverpool. Vous retrouverez également dans cet album son magnifique concerto pour piano ainsi que ses 2 premières symphonies. Nous voici maintenant en 1858, l'année de la composition d'Orphée aux Enfers, l'une des opérettes les plus célèbres de Jacques Offenbach avec son fameux galop final. L'air que je vous propose d'écouter se situe à la toute fin du premier acte. Le couple formé par Orphée et Eurydice bat de l'aile. Le premier voudrait pratiquer son art devant un public plus complaisant, tandis que la seconde ne supporte plus les crin-crins de son violoneux de mari. Alors qu'elle badine avec le berger Aristée, elle se fait mordre par un serpent. Aristée était en fait le dieu Pluton qui, par ce stratagème, emmène Eurydice dans son royaume des enfers. Eurydice semble étonnamment heureuse de quitter la vie, inspirant à Offenbach un air d'une douceur hypnotique accompagné de bruissements de violon, de pizzicato des basses et au second couplet de délicats arpèges de clarinette et de hautbois. La mort m'apparaît souriante, elle m'attire, elle me tente, mort, je t'appelle, emporte-moi.
Sure.
Avec la jolie voix de Jodie DeVos, c'est sûr, la mort ne peut qu'apparaître souriante. Notre jeune soprano belge était accompagnée par l'orchestre de la radio de Munich, sous la direction de Laurent Campellone, dans un disque paru à l'occasion du bicentenaire de la naissance d'Offenbach. Et nous filons maintenant à Prague, retrouver Leos Janáček, l'un des quatre grands compositeurs tchèques avec Smetana, Dvorak et Martinů. Dans son premier quatuor à cordes, écrit en 1923 à l'âge de 70 ans, on ne peut oublier que Janáček, dont les neuf opéras sont presque autant de chefs-d'œuvre, reste en toute chose homme de théâtre. Car c'est un véritable drame psychologique que va camper cette œuvre de musique de chambre. Le premier quatuor à cordes de Janáček s'inspire en effet d'une nouvelle de Tolstoï, au cours de laquelle une pianiste mariée tombe amoureuse du violoniste avec qui elle joue la sonate à Kreutzer de Beethoven. Le mari, comprenant qu'ils entretiennent une liaison à la manière dont il joue cette sonate, finira par les poignarder tous les deux. En confiant aux instruments à cordes les multiples sentiments qui traversent les protagonistes, Janáček parvient à créer un véritable opéra sans parole. Le deuxième mouvement du quatuor incarne ainsi une étrange scène de séduction entre le violoniste et la femme mariée, à la fois inquiète et follement attirée par lui. Vous verrez qu'à l'écoute de cette musique, des images, des sensations même, tout un scénario semble se mettre en place. Et ce qui fait pour moi le génie de Janáček, c'est qu'à chaque fois que j'écoute ce mouvement, je réécris l'histoire dans ma tête, différemment, mais avec toujours autant d'émotion et d'intensité. À vous maintenant d'imaginer, sous l'œil du mari jaloux, votre propre scène de séduction.
Thank you.
Pour lui, tout est expression et aucune note n'a le droit à l'existence si elle n'est expression, nous dit le grand écrivain tchèque Milan Kundera au sujet de son compatriote Jan Hatschek, dont nous venons d'écouter le deuxième mouvement du premier quatuor à cordes, et c'est le quatuor Belcha qui interprétait cette fascinante page musicale dans un disque consacré à la fois à Jan Hatschek et à Ligeti. Reprenons maintenant nos esprits avec une œuvre de Marc-Antoine Charpentier. Je ne pense pas à son fameux Te Deum qui lui est invariablement associé, mais à ces histoires sacrées qu'on qualifierait aujourd'hui plutôt d'oratorio. Ces œuvres étaient favorisées par l'Église catholique afin de fonder et diffuser les principes d'une dévotion nouvelle. De nombreuses œuvres exaltent ainsi les vertus chrétiennes à travers des figures exemplaires, la Vierge bien sûr, mais aussi d'autres femmes fortes comme par exemple Sainte Cécile, aux valeurs morales incomparables. Inflexible dans sa chasteté, animée d'une foi militante, chantant inlassablement les louanges de Dieu. Je ne peux évidemment qu'y être sensible puisqu'elle est à la fois la sainte patronne des musiciens, mais aussi celle qu'on fête le jour de mon anniversaire. À la fin de l'oratorio de Marc-Antoine Charpentier, Cécile est condamnée par le tyran Almaque pour avoir refusé de sacrifier aux dieux païens. Nous écoutons maintenant l'incroyable richesse harmonique d'un double chœur de déploration, entrecoupé de petits duos consolateurs d'anges chantant et jouant du violon. La déploration de la mort de Cécile, poignant extrait de Cécile, Vierge et Martyr, un oratorio de Marc-Antoine Charpentier, interprété avec délicatesse et émotion par les musiciens de l'ensemble Correspondance, dirigé par Sébastien Dossé. Place maintenant à la musique de Gabriel Fauré et à son merveilleux quatrième nocturne pour piano, sans doute l'un de ceux qui marquent le plus la filiation entre le grand compositeur français et Chopin. Écrit en 1884, il se divise comme presque tous les nocturnes de Fauré en trois parties. La seconde en mode mineur, frémissante et agitée, dont le lyrisme rayonnant finit par ramener le mode majeur et la tendresse rêveuse de la première partie.
Thank you.
une main droite déployant un sens mélodique lumineux, une main gauche d'une rare sensibilité harmonique. Nous écoutions le grand pianiste Éric Lesage interpréter le 4e nocturne de Gabriel Fauré, un extrait de son disque consacré à l'intégrale des 13 nocturnes du compositeur français, nocturnes au sujet desquels je citerai volontiers Nicolas Souton, qui dans le livret de ce si bel album parle à leur sujet de lyrisme intime et passionné. Et maintenant, savez-vous ce qu'est la musique acousmatique ? Acousmatique, drôle de nom, n'est-ce pas ? Eh bien, la musique acousmatique, c'est une musique faisant appel aussi bien au son électronique qu'au son naturel, comme le bruit du vent, de la mer, de deux bois qui se cognent, de la voix parlée, des chuchotements, etc., tous ces sons étant ensuite transformés et traités par ordinateur. Véronique Villemard en est une virtuose, dont l'univers poétique et raffiné se marie particulièrement bien dans cet album du PMT Quartet, aux harmonies du grand pianiste de jazz Antoine Hervé, à la batterie inventive de Philippe Pipon-Garcia et aux volutes enivrantes du saxophoniste Jean-Charles Richard. J'ai connu Véronique Villemard et Antoine Hervé au Conservatoire de Paris, où nous étions condisciples, et ce sont eux qui m'ont ouvert au jazz et à des univers sonores alors presque inconnus de cette vénérable maison. Plus tard, j'ai eu le plaisir de partager en duo la scène avec Jean-Charles Richard, et en attendant d'avoir le bonheur de faire la connaissance de Philippe Pipon-Garcia, je vous propose d'écouter un ministère des loops oniriques et pour moi presque cinématographique, une parenthèse dans notre émission pour rêver et se laisser aller à la fusion des timbres et la beauté des sons. Thank you. Entre jazz contemporain et musique électroacoustique, nous écoutions Ministère des Loops, une composition de Véronique Villemard et d'Antoine Hervé, interprétée par Jean-Charles Richard au saxophone, Philippe Pipon-Garcia à la batterie, Antoine Hervé au piano et Véronique Villemard à l'ordinateur. Un singulier voyage auditif dont la poésie me semblait parfaite pour notre promenade auriculaire. Promenade que nous allons maintenant conclure avec un Vivaldi particulièrement spectaculaire, un extrait de son célèbre Judita Triomphans, un oratorio écrit à Venise en 1716 pour célébrer la victoire de la cité des Doges sur les Turcs à Corfou. En voici l'intrigue. Alors que sa cité de Béthulie est assiégée, la jeune Judith va implorer la pitié du conquérant assyrien Holoferne. Celui-ci tombe immédiatement amoureux d'elle, tandis qu'elle fait semblant de partager ses sentiments. Mais une fois Holoferne endormie, elle lui coupe la tête, s'enfuit du camp ennemi et retourne victorieuse à Béthulie. Lorsque le serviteur d'Holoferne découvre le crime, il crie vengeance et implore les furies. L'éblouissante virtuosité vocale de Léa de Zandre, un extrait de l'oratorio Judita Triomphans d'Antonio Vivaldi, à retrouver dans son récent album Vivaldi Jupiter. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Théo Fricono. Chef opératrice du son, Catherine Déréthée. À la semaine prochaine.